Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. L'émission Un jour dans l'histoire a l'habitude de vous présenter tel ou tel événement ou bien telle ou telle période de notre histoire. Des portraits aussi, des portraits de personnages plus ou moins connus mais ayant marqué leur temps. Eh bien, permettez-moi de sortir de ce sentier, une fois n'est pas coutume, et d'aborder avec vous aujourd'hui un thème qui n'en est pas moins cher, je pense, à vos aspirations, puisqu'il s'agit de la préservation du patrimoine. Le succès des Journées du patrimoine prouve à lui seul l'intérêt que les passionnés d'histoire, mais aussi le grand public, portent à cette préservation, au témoignage des siècles passés. Le ministère de la Culture en fait la présentation suivante. Créé en 1984 par le ministère, donc de la Culture, les Journées du patrimoine ont lieu tous les ans le troisième week-end de septembre. Événement culturel de la rentrée, ces journées enregistrent chaque année plus de 12 millions de visites et témoignent de l'intérêt des Français pour l'histoire des lieux et de l'art. Le succès de la manifestation repose sur la grande diversité du patrimoine proposé aux visiteurs. Parallèlement aux chefs-d'œuvre de l'architecture civile ou religieuse, sont mis à l'honneur les témoins des activités industrielles ou agricoles, les parcs et jardins, les sites archéologiques, les objets mobiliers, le patrimoine littéraire, fluvial ou bien encore militaire. Que ces édifices, donc, que ces bâtiments soient liés à l'histoire institutionnelle ou bien à l'histoire simplement politique ou religieuse de notre pays, d'une région ou bien d'une ville, nous restons attachés à la pierre, à ses ornements, à ses expressions artistiques et aux symboles qu'elle représente. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un petit bijou de notre patrimoine qui a traversé les siècles, malgré les dégradations du temps. Un petit bijou à la croisée de l'étude historique, de l'archéologie, du religieux et, disons-le, du spirituel. Une petite chapelle en terre lauchoise, la chapelle de Vignemont, liée, comme nous allons le voir, à plus de 15 siècles d'histoire. Un monument à restaurer, un monument à préserver, un témoignage des siècles passés qui, à l'initiative d'une famille passionnée, la famille Écart, doit aussi devenir un lieu d'avenir. Maxence Écart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administrateur de société, membre du Conseil scientifique du ciel, qui est le Comité international d'études du linceul de Turin. Vous vous intéressez à beaucoup de sujets, mais notamment et surtout à la philosophie, puisque vous êtes sur le point de sortir un ouvrage consacré à la démocratie moderne. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais vous êtes venu au micro de Canal Académie, puisque vous êtes président de la société civile Notre-Dame de Vignemont, et c'est à ce titre que l'Académie des inscriptions et des belles-lettres vous a remis un prix, le prix de la Fondation Garnier-Lestamie, en 2005, donc pour la société civile de Notre-Dame de Vignemont, pour, je cite, l'aider à la restauration de la dite chapelle à Loches en Indre-et-Loire. Je reçois aussi au micro de Canal Académie votre père, Jean Écart, qui fait partie de cette société, conseiller honoraire à la Cour de cassation. Vous êtes monsieur Écart en retraite et vous faites partie de ces Français que l'on dit rurbains, c'est-à-dire qui sont revenus à la campagne, à la terre pour mieux la goûter. Alors, je m'adresse peut-être d'abord à vous, monsieur Jean Écart, pour nous parler tout simplement du contexte, j'allais dire, de la ville de Loches. La chapelle de Vignemont se situe sur le territoire de Loches, qui oui. Est une ville marquée par l'histoire.
Tout à fait. D'ailleurs, on peut dire que Loches est à l'origine un site gallo-romain. Et le premier évêque dont on parle est antérieur à Clovis, c'est Saint-Eustoche. Et il vivait à l'époque vers 450. Et ensuite, il faut citer dans l'histoire de Loches, Saint-Ours, qui était un ermite, mais accompagné de nombreux disciples, et qui s'est installé à Loches, où il a construit un moulin qui est très connu dans le pays, et il s'est installé dans le coteau de Vignemont. Il faut dire que Loches et le coteau de Vignemont sont très proches. Et Ce sont des collines qui sont pleines de souterrains, de cavités souterraines, et encore maintenant, ce sont de véritables labyrinthes. Et alors, Vignemont a une construction antérieure à Notre-Dame de Vignemont dont nous parlons, mais il n'en reste rien, semble-t-il. Il faut donc passer les siècles et arriver à la fin du XIIe siècle pour savoir que la chapelle de Vignemont a été construite vers 1170-1180.
C'est sa date officielle d'érection.
C'est la date officielle d'érection. Il n'y a plus de discussion entre les historiens sur ces points-là. Il y a beaucoup de raisons. Je ne les développe pas ici, ce serait un peu trop long. Mais alors, il faut comprendre que la date de cette construction correspond également à la date de reconstruction de la collégiale de Loches. Vous savez qu'à Loches, il y a quelques grands bâtiments, notamment la collégiale de Loches et puis le logis royal. Mais on va s'en tenir, si vous voulez bien, à l'aspect plutôt spirituel. Or, il y a eu des relations entre la collégiale de Loches et la chapelle de Vignemont, en ce sens qu'il y avait des processions qui avaient lieu, notamment au moment des rameaux et au moment de la journée des morts. Parce que cette chapelle de Vignemont était entourée d'un cimetière. Et il est probable, les historiens pensent qu'il y a toujours eu un cimetière à cet endroit-là. Et donc, on peut penser aussi que la chapelle de Notre-Dame de Vignemont a servi en quelque sorte de succursale à la collégiale Saint-Ours comme paroisse pour desservir les quartiers proches, c'est-à-dire le quartier de la Porte Poitevine ou encore le quartier du faubourg Quinte-Folle ou Bel et Bas.
Alors, je voudrais, je me permets de vous arrêter, monsieur Eka. Il y a quand même un contexte culturel très riche. Hein. Est-ce que vous pourriez, en dehors de la chapelle, nous présenter cette cité médiévale dont l'histoire a été marquée notamment par la venue de grands personnages?
Alors, le plus grand personnage à citer, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Saint-Ours. C'est imparable.
Qui a donné son nom donc à la collégiale.
À la collégiale Saint-Ours. Et donc,
Nous sommes à l'époque de Saint-Martin, là, en fait.
Non, c'est postérieur. Saint-Martin, c'est le 4e siècle. Et Saint-Ours, c'est le début du 6e siècle. Donc, c'est le début du 6e siècle, 510 environ.
Et peut-être pour compléter un peu ton propos, pourrions-nous dire que Loches, c'est en fait une toute petite cité sur les bords de l'Indre, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Tours. Hein. Tout le monde ne connaît pas cette toute
Absolument.
Petite ville, mais qui, tu nous l'expliques, est extrêmement ancienne par son patrimoine.
Voilà. Il faut comprendre que c'était un endroit facilement défendable, et puis les habitants pouvaient se terrer dans les souterrains dont nous parlions tout à l'heure.
La cité est sur un promontoire.
La cité est sur un promontoire.
Certains disent même qu'elle a été bâtie en colimaçon autour de la colline principale, et c'est vrai que c'est très charmant, hein, c'est une cité qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on comprend bien pourquoi, parce que cette cité médiévale, on grimpe sur des petites rues qui montent en colimaçon vers le logis royal et la collégiale.
Alors, on peut citer à partir du Xe siècle un événement assez important. C'est-à-dire la reconstruction, parce qu'on suppose qu'il y avait déjà une église à la place de la collégiale, mais la construction de la collégiale, elle remonte au Xe siècle. Et alors là, on est sous l'autorité du comte d'Anjou, dit Gris-de-Gonel, qui a été, en somme, le fondateur de la collégiale Saint-Ours. Et il ne l'a pas appelée comme ça. Il l'a appelée Colléviale Notre-Dame. Et il est allé à Rome et il s'est confessé au pape Jean XII et il s'est engagé à construire cette colléviale, qui a été bénite quelques années plus tard, en 962, par l'archevêque Ardoin de Tours. Donc c'est là l'origine de la collégiale Saint-Ours.
Alors on peut peut-être dire aussi que cette collégiale est très particulière de par sa forme, puisqu'elle a, elle a plusieurs absides.
Et il faut dire qu'elle est très particulière par sa forme, mais à ce moment-là, il faut encore sauter deux siècles. Parce qu'elle a été reconstruite deux siècles plus tard, parce qu'elle était en très mauvais état. Et alors, on fait appel à Thomas Facetus, qui a été à l'origine de ces deux clochers octogonaux, et à l'origine des deux dubes octogonaux également, qui caractérisent en somme cette collégiale.
Et dont Viollet-le-Duc disait qu'elle a une beauté sauvage.
Voilà.
C'est quand même étonnant de voir une collégiale en tuffeau typique de Touraine, donc cette pierre blanche tirant sur le blond qui est si éclatante au soleil. Et c'est donc un très très beau spectacle que cette collégiale Saint-Ours sur la colline de Loches.
Revenons un instant sur la construction par Gris Gonnel. Parce que c'est important pour préciser l'aspect spirituel. On est à une époque de violence, mais on est à une époque de grande foi. Depuis le début, depuis la construction, depuis l'époque de Gris Gonnel, la collégiale Saint-Ours a reçu, pour la vénération des fidèles, une ceinture de la Sainte Vierge. Comment est-elle parvenue? Et c'est indiscutable. Eh bien, il faut citer une anecdote, mais qui est historique, et que j'ai trouvée dans un ouvrage du chanoine Moussier, qui a décrit avant la guerre 14-18, juste avant la guerre 14-18, toutes les chapelles vouées à Notre-Dame dans la Touraine. Or, vous savez que Loches est dans la Touraine du Sud, c'est la capitale de la Touraine du Sud. Eh bien, cette anecdote est la suivante. À l'époque, on est du temps de Lothaire II, le dernier descendant de la dynastie carolingienne, et il est en guerre avec Othon II, dit le sanguinaire, et Paris est assiégé. Les troupes germaniques se trouvent à Montmartre, et tous les jours, il y a un géant tudesque et qui appelle à un combat singulier. C'est à l'époque comme ça. Et personne ne se présentait. Mais enfin, un jour, s'est présenté le fameux comte d'Anjou, Gris Gonnel, qui lui a accepté d'affronter ce géant. Et alors la reine Emma, l'épouse de Lothaire II, de Lothaire, a donné avant le combat au comte d'Anjou la ceinture de la Vierge, en lui disant de s'en revêtir parce qu'elle lui ferait gagner le combat, ce qui est arrivé. Mmh. Alors il faut dire que la famille de Charlemagne avait, depuis l'époque de Charlemagne, reçu cette ceinture de la Vierge de l'empereur de Constantinople en remerciement de ses services. Et effectivement, et donc il a gagné son combat, les Germains ont levé le siège immédiatement et Gris Gonnel a offert à la collégiale cette ceinture de la Vierge, qui est toujours vénérée actuellement et qui a été bien sûr cachée au moment de la Révolution et sauvée. Et elle est toujours très vénérée. Et alors il faut savoir, tous les rois de France venaient, enfin, et Jean de Le Bon, Saint-Louis, Louis XI, Charles VII, tous sont venus vénérer la ceinture de la Vierge.
Je reçois Jean et Maxence Écart, père et fils, membres de la Société civile Notre-Dame de Vignemont, qui, à ce titre, ont reçu un prix de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres pour leur travail, pour leur œuvre de restaurateur de cette chapelle qui se situe en territoire lochois. Nous nous retrouvons dans un instant.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean et Maxence Écart, père et fils, membres de la Société civile Notre-Dame de Vignemont, qui a acheté une chapelle qui se situe en territoire lauchois, la chapelle Notre-Dame de Vignemont. Nous allons voir qu'elle a eu plusieurs noms. Nous avons, dans la première partie de cette émission, placé ce cadre spirituel dans le cadre dans lequel s'inscrit la construction de cette chapelle. On ne peut pas comprendre cet essor et finalement l'érection de ces nombreuses chapelles sur le territoire français sans rappeler ce développement, cette foi qui existait au temps médiéval. Alors, je me tourne vers Maxence Écart. Vous êtes président de la société civile et c'est à ce titre que vous avez racheté cette chapelle. Est-ce Maxence Écart un fait atypique? Est-ce que en cette fin du XXe siècle, puisque vous l'avez acheté à la fin du XXe siècle, en quelle année très exactement?
Et je l'ai acheté en 2003.
En 2003, donc au début du XXIe siècle. Est-ce une chose courante que d'acheter une chapelle? Quelles ont été vos motivations? On sent que votre père est très marqué par cette histoire lauchoise. Est-ce que vous-même, vous êtes marqué par cette histoire lauchoise qui vous a donc, par votre conséquence, amené à vouloir préserver ce bâtiment?
Mais je pense que c'est pas très courant d'acheter des monuments de notre patrimoine, bien sûr, parce que il y en a pas énormément qui sont à vendre. Je crois, par contre, que c'est une action extrêmement moderne, et donc je ne pense pas être un cas isolé, que lorsqu'on trouve une opportunité, une belle chose à vendre, et que souvent personne ne veut l'acquérir parce que ça représente une charge financière importante, et surtout ça représente beaucoup de soins, eh bien, je pense qu'on se trouve devant des petits joyaux de notre patrimoine dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et donc, la démarche, elle est toute simple, c'est de se dire qu'on n'a qu'une seule vie, qu'on passe beaucoup de temps au bureau à travailler, mais que pourquoi ne pas s'intéresser aussi à autre chose, s'intéresser à notre passé et essayer de le préserver pour le transmettre, hein, c'est tout simplement ça. Donc là, je dirais qu'en l'occurrence, l'occasion a fait le larron. Nous avons appris que cette petite chapelle qui était en main privée depuis la Révolution française, en fait, hein, elle...
Permettez-moi de vous couper, vous avez des origines lauchoises
ou... Alors moi, personnellement, non. C'est une région d'adoption, mais c'est une très très belle région où ma famille s'est établie depuis 1989 et qui est donc une région où nous avons maintenant planté nos racines, je dirais, et qui est une où nous espérons rester longtemps. Hein. Et donc nous nous intéressons tout naturellement à son histoire et à son patrimoine. Mmh. Et donc nous avons une maison de famille désormais dans cette région, et c'est à ce titre que nous avons appris un peu par le hasard que cette chapelle se trouvait en vente.
Et son territoire, puisque...
Et son territoire, absolument. Ouais. Parce que pour resituer un petit peu ce monument, en fait, Loches est bâti, comme nous le disions tout à l'heure, sur une colline qui comporte l'essentiel des monuments, notamment la citadelle, le donjon, le logis royal, où Jeanne d'Arc...
La tour Saint-Antoine.
Voilà, et la collégiale dont nous parlions. Et puis, il y a une autre petite colline qui est séparée de la précédente par ce qu'on appelle une vallée sèche et qui d'ailleurs jouit d'une vue absolument merveilleuse sur cette citadelle médiévale, puisque on peut dire que, et sans le vouloir, nous avons acquis, n'est-ce pas, papa, la plus belle vue qui puisse exister sur
la vallée de l'Indre.
Et également une vue tout à fait exceptionnelle sur la vallée de l'Indre.
Hein,
et donc on est sur une petite colline, et en fait cette colline, à l'origine, était le cimetière de la cité de Loches. Et on ne connaît pas en fait l'origine de ce cimetière, puisque nous avons reçu la visite d'un archéologue qui nous a expliqué qu'il s'agissait d'un site proto-monastique, c'est-à-dire un site où habitaient, dans toutes les caves qui percent cette colline comme un gruyère, habitaient des ermites, des moines, et qui donc, évidemment, habitaient tout naturellement. On a été enterrer les membres des familles lochoises à côté des moines pour être sûr que leur éternité soit bien entourée des prières monastiques. Et donc, ça a constitué un cimetière, probablement depuis les tout premiers siècles. Hein, on peut imaginer 4e, 5e, 6e siècle, mais bien avant la construction de la collégiale. Et c'est devenu un lieu de sépulture, si vous voulez.
Et, cimetière gallo-romain et ensuite mérovingien.
Et ensuite mérovingien. Mmh. Donc on a retrouvé des sarcophages, en fait, hein, qui sont mérovingiens, n'est-ce pas?
Et des fragments aussi de poterie
romaine,
gallo-romaine ou moyenâgeuse.
Et nous-mêmes, nous avons une cave dans cette colline où il y a des poteries et tous ces sites n'ont pas été fouillés. Non. Pour une raison très simple, c'est que cette chapelle était donc en main privée depuis la Révolution française jusqu'à ce que nous l'acquérions. Elle est toujours en main privée, mais aujourd'hui nous avons un souci archéologique que les précédents propriétaires n'avaient sans doute pas. Ceci dit, nous n'avons pas de programme de fouilles, hein, puisque...
Non, mais les propriétaires privés au 19e siècle, puisque ça fait... Il faut dire que le cimetière est désaffecté depuis le milieu du 18e siècle. Et donc... Avant la Révolution, c'était déjà un domaine privé. Pourtant, c'était resté bien de l'Église. Et donc, ça a été, au moment de la Révolution, vendu comme bien national. Et c'est tombé entre les mains d'exploitants, et qui se sont partagés la chapelle en deux.
Ce qui était complètement ahurissant, j'ai lu dans la notice, puisque vous avez fait faire une notice d'un historien, Gérard Fleury, un Lochois.
Absolument.
Oui. La chapelle coupée en deux.
Voilà.
Elle a été vendue.
Voilà. Et alors, finalement, c'est tombé entre les mains d'une seule personne à la fin du 19e siècle, et ça a été vendu à une famille en 1905. Qui a racheté le tout, aussi bien le cimetière que la chapelle, et puis qui a trouvé bien d'installer un belvédère au-dessus de l'abside de la chapelle, pour jouir notamment de la vue sur la vallée de l'Indre, et partout, sous tout alentour. Bien sûr, c'est magnifique, mais ça n'a pas arrangé la chapelle.
Oui, c'est une chapelle qui, vous le disiez tout à l'heure, qui... finalement, a été désaffectée dès le milieu du XVIIIe siècle.
Elle a été désaffectée. Alors, pour en revenir un petit peu à l'historique de la chapelle proprement.
Oui, parce que vous nous aviez laissé tout à l'heure au XIe siècle, au XIe, XIIe siècle, avec la collégiale Saint-Ours.
Voilà. Mais il faut savoir qu'au moment de cette reconstruction par Thomas Pactus, vers 1150-1180, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a construit cette chapelle qui existe encore actuellement. Et on ne sait pas quelle relation il y avait à cette époque-là entre les deux paroisses, mais c'est probable qu'il y en avait. Et alors, il faut bien comprendre que la chapelle est devenue ensuite assez rapidement une sorte de fort. Et au moment où les protestants sont arrivés à Beaulieu-les-Loches, ils ont voulu investir la cité de Loches. Et un espion, Huguenot, a fait un rapport au sujet des défenses qui se trouvaient à proximité de la chapelle. Et il a même appelé, non pas la chapelle de Vignemont, mais il a appelé ça le fort Vignemont. Ce qui veut dire que la chapelle était fortifiée. Et on le retrouve dans des documents anciens.
Du XVIe siècle, il y a des gravures.
Il y a des gravures.
Qui montrent des tours de fortification, en fait.
Et alors, ça a été un désastre, parce que Il y avait deux tours, semble-t-il, carrées, et qui se sont donc plus ou moins accrochées au mur nord, je crois, de la chapelle. Et c'est probablement ce qui a provoqué l'effondrement des voûtes de la chapelle. Parce que, pour en revenir à l'architecture de la chapelle, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un style roman et ogival à la fois, comme on le faisait à cette époque-là, à la fin du XIIe siècle, aussi bien pour la collégiale que pour la chapelle. Et les voûtes, on les a pas, on en retrouve notamment dans la travée carrée, qui est la plus belle, avec les chapiteaux, les tailloirs, etc.
Parce que ce qu'il faut dire, peut-être il faut donner à nos auditeurs une image, autant qu'on peut le faire par la radio, de ce monument.
Oui, puisque votre père disait que c'était un désordre. Vous ne resterez pas une ruine. Hein. Il y a des murs, il y a un toit. Et vous parliez tout à l'heure d'une cave. Il y a eu, sans doute, des restaurations successives.
Alors, en fait, on peut dire que nous avons... affaire à un petit bijou d'architecture. Petit bijou qui a subi les avatars du temps, bien entendu. Et mon père mentionnait à l'instant les difficultés d'une fortification qui a disparu, mais qui a entraîné des destructions. Mais ce qui reste est absolument merveilleux. Alors, pour donner une idée à nos auditeurs, eh bien, imaginez Saint-Julien le Pauvre sans les bas-côtés. C'est un petit peu Saint-Julien le Pauvre, qui est une église parisienne, hein, qui est un peu de la même époque. Donc, vous avez deux travées. Elle fait 19 mètres de longueur et 9 mètres de côté. Et c'est un bâtiment d'une harmonie tout à fait admirable. Vous avez une porte d'entrée, vous entrez dans une nef dite barre longue, c'est-à-dire rectangulaire, en fait. Puis, vous avez une nef carrée et c'est terminé par une abside en cul-de-four sur le chœur, si vous voulez. Et lorsque vous entrez par la porte, qui est donc au bout de cette chapelle, vous avez un coup d'œil qui vous permet d'admirer tous les chapiteaux, qui sont des chapiteaux sculptés qui subsistent et qui sont très, vraiment très beaux.
22 chapiteaux.
22 chapiteaux. Et ensuite, vous voyez le chœur avec cette abside qui est très pure, hein, une abside de pierre tout à fait admirable. Donc il y a un coup d'œil qui est vraiment somptueux. Et on imagine qu'au-dessus des nefs, il y avait autrefois des voûtes qui se sont effondrées. Mais évidemment, les éboulis ont disparu. Et notre projet, si nous trouvons les fonds nécessaires, c'est évidemment de reconstituer cet ensemble. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une petite merveille d'harmonie et de sculpture de la fin du XIIe siècle. Alors, on peut poursuivre en disant qu'un autre intérêt de ce monument, c'est qu'il est encore, si j'ose dire, dans son jus. Parce que ça n'était qu'une chapelle secondaire. Parce qu'ensuite cette chapelle était liée à une nécropole, eh bien, c'était pas une paroisse très très fréquentée. Et donc, le bâtiment actuel a servi, dans son état, inchangé, depuis la fin du XIIe siècle. Ce qui est quelque chose de très exceptionnel. Et donc, nous avons des murs qui sont recouverts des restes de peinture murale qui n'ont pas bougé depuis le XIIIe-XIVe siècle.
Alors, quels sont les motifs de ces peintures murales ? C'est ce que nous allons voir, Maxence Écart, après cette deuxième pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie vous propose une nouvelle rubrique, l'Académie des blogs. On estime qu'actuellement, il s'ouvre un blog toutes les 2 secondes dans le monde et nous ne pouvions pas passer à côté d'un tel phénomène de société, surtout lorsque les académiciens s'y mettent aussi. Alors retrouvez tous les lundis un blogueur du monde de l'édition, de la presse, de l'enseignement ou tout simplement amateur de littérature pour associer l'utile à l'agréable. En compagnie de David Abiker et d'Élodie Courtejoie, nous vous emmenons à la découverte de la crème de la blogosphère.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean et Maxence Écart, co-gérants de la société civile Notre-Dame de Vignemont, dont l'objet est la restauration de la chapelle Notre-Dame de Vignemont. Restauration, travail pour lequel vous avez reçu un prix de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres en 2005. Alors vous nous décriviez, Maxence Écart, cette chapelle de l'intérieur et notamment ses peintures murales que l'on peut voir, que l'on peut deviner, on devine certaines scènes. C'est une chose rare que d'avoir des peintures murales qui datent de cette époque.
Voilà, et c'est d'autant plus rare de les avoir. Alors, elles ne sont pas en parfait état, hein, disons-le d'emblée. Il y a d'autres sites en France où on a des peintures en bien meilleur état. Mais elles, parce que, notamment, elles ont été faites sur des enduits extrêmement fins et quasiment directement sur l'appareil de la chapelle qui était de grande qualité à l'origine. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore aujourd'hui? Eh bien, on ne voit que des restes, mais de beaux restes, je dirais. Alors, dans la nef principale, on voit plusieurs personnages et qu'on peut mieux identifier grâce à des relevés qui ont été faits au XIXe siècle. Et ça s'est pas mal dégradé depuis, il faut le reconnaître. Mais on voit encore des visages d'anges, qui sont d'une extrême finesse et d'une très grande qualité artistique, tout à fait étonnante pour un monument quand même de province, si vous voulez.
Mais on pense que les équipes de peintres qui ont travaillé...
Et de sculpteurs.
Et de peintres et de sculpteurs, mais surtout les équipes de peintres, ont été les mêmes que celles qui ont travaillé à la Collégiale. Et probablement à l'abbaye de Beaulieu aussi.
À l'abbaye de Beaulieu.
Parce que ça s'est fait à la même époque. Les peintures sont entre le XIIe et le XIVe, même époque que pour les autres bâtiments.
Et en ce qui concerne les chapiteaux, on pourra y revenir tout à l'heure, mais on retrouve des éléments très caractéristiques que l'on retrouve dans la cathédrale de Poitiers. Mais pour en rester sur ces peintures murales, donc on voit un certain nombre de visages, et puis je dirais qu'il y a deux grandes scènes que l'on identifie aisément. Il y a d'une part un ensemble de peintures concernant la nativité, avec trois cavaliers que l'on peut identifier au roi mage, un soldat armé, mais évidemment tout cela a des lacunes, hein, donc on est obligé de reconstituer les scènes, mais un soldat armé qui visiblement procédait au massacre des innocents, et donc on sait qu'on a affaire à une scène de la nativité. Malheureusement, dans le chœur, hein, surmonté de cette abside en cul-de-four, eh bien la plupart des peintures ont disparu parce que cette abside prend l'eau, et c'est un de nos principaux soucis. Dans la nef carrée, qui est la mieux conservée, on a une scène de la résurrection qui est extrêmement intéressante, puisque on voit des gardes, hein, donc on se souvient de la scène de la résurrection avec les saintes femmes qui viennent au petit matin de Pâques.
Portant
des aromates, des onguents dans des pots à onguents très caractéristiques. Et puis on voit les gardes qui sont avec des cottes de mailles médiévales occidentales, bien entendu, et qui se réveillent au son de l'ange, si vous voulez. Donc ça, c'est une scène bien connue de l'iconographie chrétienne et qui est encore en très très bon état. On voit également plus haut, donc cette chapelle, il faut se la représenter très haute, et c'est ce qui explique son élégance et l'élégance de son architecture. Hein. Elle fait 5-6 mètres de hauteur. Eh bien, cette chapelle, on voit dans la partie haute des représentations de la Genèse, avec notamment l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'on peut observer au-dessus de la scène de la résurrection. Et donc, on voit également donc encore de très nombreuses décorations murales caractéristiques du XIVe siècle, avec notamment des faux joints de couleur rouge. Alors évidemment, toutes ces peintures se détachent aujourd'hui, sont à l'humidité et demanderaient une fixation d'urgence pour éviter qu'elles ne se dégradent de manière supplémentaire. Il faut dire aussi, peut-être on peut le mentionner, que cette chapelle a été la proie de ce qu'on appelle en franglais les squatteurs, hein, donc de gens qui sont venus y boire et y manger et qui ont provoqué un incendie.
En 98.
En 98. Et la chapelle a été en fait sauvée par un voisin qui a vu les flammes. Et les pompiers sont arrivés, ont éteint le feu. La chapelle servait à l'époque de garage. Il y avait une voiture.
Et de grange.
Et de grange, mais donc un incendie très, très dangereux, puisqu'avec des matières plastiques et de l'essence qui a brûlé. Et il y a eu quelques dégâts, mais pas trop. Mais enfin, l'eau des pompiers a quand même un petit peu dégradé ces peintures. Nous pensons que les peintures subsistent sous un espèce de résidu. De résidus composés d'eau et puis des fumées, si vous voulez. Et évidemment, il faudrait gratter tout cela pour récupérer ces peintures, ce qui représente évidemment des chantiers très lourds.
Alors, c'est une chapelle sépulcrale hein, qui, encore une fois, est placée sur le territoire d'un cimetière. Mais dans les descriptions que vous avez faites jusqu'à présent, la mort n'est pas présente. Alors, hormis peut-être ce que Fleury dit dans sa notice historique, à savoir une litre qui est...
seigneuriale.
Qu'est-ce qu'une litre, monsieur Eckart ?
Eh bien, c'est une bande noire qui se trouve à mi-hauteur d'un mur. Et pour évoquer le décès d'un seigneur. Mais on ne sait pas qui est ce seigneur. Il faudra faire des recherches, peut-être le trouvera-t-on, mais on ne le connaît pas encore. Alors ça, il y a une litte, c'est incontestable, on la voit encore très bien.
Un élément, disons, que l'on connaît peu hein, dans l'histoire de l'art et qui pourtant est bien présent.
Alors, il n'est pas douteux qu'il y a eu probablement des personnages qui se sont fait enterrer dans cette chapelle. Mais on n'a pas leur nom, puisqu'une partie des archives ont été détruites à la Révolution. Cette chapelle dépendait à l'époque d'une abbaye voisine à Beaulieu-les-Loches. Et des archives ont disparu. Nous, il faut reconnaître que nous n'avons pas fait toutes les recherches encore. Et ça, c'est un travail tout à fait passionnant qu'il faut effectuer pour retrouver un petit peu toute l'histoire de cette chapelle. Et ce qui est certain, c'est qu'on retrouve des ossements partout. Dans la chapelle, autour de la chapelle et surtout le site, si vous voulez. Et pour l'anecdote et pour nos auditeurs, on peut dire aussi que cette chapelle, qui a donc servi de fortification à une époque, a, sous l'emplacement du maître-autel qui a disparu, un souterrain qui est muré, bien sûr, mais dont on peut observer par l'autre bout et qui traverse toute la colline et qui descend dans toutes les caves qui sont sous la colline, car sous la colline, il y a, je crois, 4 étages au moins de caves différentes qui sont multiples. Il y a des kilomètres de caves.
C'est un vrai labyrinthe, on s'y perd.
On s'y perd, et il y a la municipalité vient d'en faire le relevé, mais c'est très intéressant. Et donc, il y a des souterrains qui devaient servir aux hommes d'armes pour s'échapper si jamais le fortin était pris. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce monument, c'est que il n'a pu servir de chapelle vraiment depuis assez longtemps, et en même temps, il y avait toujours une activité religieuse secondaire, puisque lorsqu'on interroge les vieux Lochois, eh bien, ils vous disent qu'ils se souviennent être venus sur ce site en procession. Et subsiste encore dans cette chapelle, de manière tout à fait étonnante, ce qu'on appelle des croix de procession, qui sont des espèces de croix qui font 3-4 mètres de haut, qui étaient couvertes de feuillage et de fleurs, et qui sont très légères, parce qu'il y a juste l'armature, et qui étaient portées en procession entre deux guerres, je dirais. Donc, un passé très très mouvementé pour ce monument.
Alors ce qu'il y a de passionnant, c'est que vous faites, hein, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire que cette chapelle se situe à la croisée de l'histoire, de l'archéologie, donc de la recherche, mais aussi de la spiritualité, du religieux, comme nous avons pu le voir. Alors vous avez des éclairages, et vous évoquiez tout à l'heure les gravures qui vous ont permis de conclure qu'il s'agissait d'un fort. Au XIXe siècle, vous avez un autre éclairage qui est celui d'un certain Galambert qui a tout simplement redessiné dessiné la plupart des peintures qui se trouvaient dans cette chapelle.
Donc il en a fait un relevé qui est extrêmement précieux puisqu'il permet de reconstituer une partie des choses qui ont disparu aujourd'hui. Et c'est important ne serait-ce que pour les restaurer parce qu'on sait où chercher les traces, si vous voulez. Et donc il a fait un relevé complet et coloré et qui est conservé au musée Lancier, si mes souvenirs sont bons. Donc cette chapelle, en fait, parce qu'elle était en main privée, tout le monde en a mesuré l'importance, y compris au XIXe siècle, mais on ne pouvait pas l'étudier. Et elle a donné lieu à des communications dans des sociétés savantes, des sociétés d'archéologie. Donc nous avons une certaine bibliographie qui existe. Mais l'étude la plus complète est celle de Gérard Fleury, qui est un grand spécialiste de la région. Sur tout ce type de monument. Si vous voulez.
Oui, nous renvoyons nos éditeurs au site de la Société Archéologie de Touraine. Je reçois Maxence et Jean Écart, fils et père, père et fils, qui nous présentent la préservation de ce patrimoine qu'est la chapelle de Vignemont, patrimoine historique, mais également patrimoine religieux. Nous nous retrouvons après cette dernière pause.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à la chapelle Notre-Dame de Vignemont qui est située à Loches, chapelle qui a reçu un prix de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres pour être restaurée par cette société civile Notre-Dame de Vignemont. Nous n'avons pas évoqué, Maxence et Jean Écart, un point important qui est le changement de nom. Puisque la chapelle a eu plusieurs fois
la chapelle des changements a eu plusieurs vocables, en effet. Et on pense qu'à l'origine, et sans doute avant la construction de l'actuelle chapelle, il y avait un autre édifice religieux qui s'appelait Saint-Jean. Il existe du reste une petite rue, toute petite, dans le bas de la colline, qui s'appelle la rue Saint-Jean. Alors on pense que c'est par évocation de ce vocable. Mais ensuite, elle s'est appelée en Sainte-Marie. Et c'est la figure dans un texte de l'abbaye de Loches et qui révèle qu'en 1170, elle s'appelait Sainte-Marie. Et puis, il semblerait qu'elle ait conservé ce vocable jusqu'au moment où on l'appelait Saint-Nicolas. Pourquoi ? Alors on présume, c'est M. Fleury qui présume, et il a peut-être raison, c'est que on a, après la destruction partielle de la chapelle, quand des voûtes se sont effondrées, et on a reconstruit notamment cette travée barlongue et pour l'entrée, etc. Et à ce moment-là, on est en présence, alors d'un point d'histoire indiscutable, et c'est la prise de possession par un clerc officiellement de la chapelle. Et on explique dans cette prise de position que le prêtre s'est incliné à l'autel principal, puis ensuite à l'autel Saint-Nicolas. Et à partir de ce moment-là, on est en 1690, si j'ai bon souvenir, la chapelle s'est appelée Saint-Nicolas. Alors, voilà. Mais nous, on pense que le vocable Notre-Dame de Vignemont a subsisté et c'est pour ça que nous continuons à l'appeler par ce vocable.
Alors, je m'adresse toujours à vous, Jean Écart, pour nous parler tout simplement de vos motivations. Parce que, encore une fois, ce n'est pas commun à l'aube du XXIe siècle d'acheter une chapelle et c'est encore moins commun d'acheter une chapelle qui est à restaurer pour préserver le patrimoine.
Mon fils vous a dit tout à l'heure que c'est un peu par hasard qu'on était devenu acquéreur de cette chapelle, c'est vrai. Et puis, quand on s'est dit pourquoi pas la restaurer, puisque c'est une chapelle ancienne et qui est quand même inscrite à l'inventaire des monuments historiques,
l'inventaire supplémentaire.
Oui. Et on a essayé donc de faire l'acquisition de cette chapelle. Et puis on s'est aperçu que nous n'étions pas les seuls acquéreurs et potentiels. Et qu'il y en avait d'autres qui s'intéressaient, et notamment un acquéreur potentiel qui aurait bien peut-être transformé la chapelle en un atelier d'art ou de peinture, quelque chose comme ça, parce que, étant donné son inscription à l'inventaire supplémentaire, il n'est pas possible extérieurement d'y toucher. Mais intérieurement, on peut l'aménager. Nous n'avions pas du tout l'intention d'aménager quoi que ce soit à l'intérieur de la chapelle. C'est une chapelle, on ne peut pas y toucher, elle restera extérieurement toujours une chapelle tant qu'elle sera inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Eh bien, nous, on souhaite, en fait, si un jour elle doit avoir une destinée, de la rendre au culte catholique.
Maxence Écart ?
Oui, je pense que l'amour du patrimoine, ça consiste à respecter les choses, en fait, hein, les choses que l'on a reçues. Et le respect des bâtiments passe aussi par le respect de leur destination initiale, dans la mesure où on le peut, bien entendu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons acquis cette chapelle avec des intentions extrêmement précises. La vérité, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas voulu récupérer cette chapelle. Pourquoi ? Parce que Loche est une petite ville avec quelques milliers d'habitants, donc des budgets réduits, avec de très nombreux monuments. Et donc, Loche n'avait pas les moyens de reprendre cette chapelle qui requiert des travaux très importants pour la
D'accord,
sauver.
D'accord, je suis allé vite.
Voilà, et donc, nous nous sommes trouvés, je dirais, un peu en concurrence, entre guillemets, avec des gens qui souhaitaient acquérir cette chapelle, qui l'auraient sans doute pas maltraitée, mais qui souhaitaient en faire tout autre chose, qui souhaitaient évidemment utiliser à la fois ce site qui est exceptionnel par sa vue et par son emplacement, et ce monument qui est lui-même exceptionnel par ses caractéristiques physiques, pour en faire un lieu de vie, ce qui est tout à fait estimable, mais qui, nous le craignions, aurait amené une certaine dénaturation du monument. Et ensuite, ce qui aurait rendu très difficile la préservation d'un certain nombre d'éléments tout à fait exceptionnels que sont ces peintures et que sont les chapiteaux. Alors nous sommes dit, bien, voilà un élément du patrimoine de Loche qui est en fait méconnu, qui est exceptionnel par ses caractéristiques. Eh bien, essayons de l'acquérir. Et puis on verra bien ce qu'on en fait, mais avec l'idée de le respecter et de préserver sa destination. Et d'ailleurs, si nous avons le temps, je raconterai volontiers une anecdote qui a émaillé, je dirais, cette acquisition, puisque nous nous sommes aperçus, après avoir signé la promesse de vente, qui était donc, il s'agissait donc d'une vente parfaite, nous étions d'accord sur la chose et sur le prix, et nous nous sommes aperçus qu'en fait, il s'agissait donc d'une nécropole, d'un cimetière. Or, le code civil explique que le corps humain est hors commerce, et on n'a pas le droit. On peut avoir une mutation des corps, c'est-à-dire changer de propriétaire de tombe, c'est légal. Par contre, on n'a pas le droit de payer un prix d'argent. Et donc, c'était évidemment juridiquement un embroglio tout à fait exceptionnel. Alors, nous avons fini par faire une transaction. Et pour remercier tous ces morts du vieux Loche qui nous ont accompagnés, nous avons décidé que si un jour cette chapelle était rendue au culte, eh bien, la première messe serait une messe de Requiem.
Eh bien, merci Maxence et Jean Écart pour cette évocation de cette chapelle Notre-Dame de Vignemont. Peut-être un dernier mot, Maxence Écart, et on se doute de la nature de ce mot.
Eh bien, je voudrais dire à tous vos auditeurs qui aiment le patrimoine et qui souhaiteraient participer à cette restauration qui vraiment vaut la peine. Nous avons été soutenus et nous tenons à remercier l'Académie des inscriptions et Belles Lettres qui a distingué notre projet. Mais bien évidemment, c'est un projet d'une grande ampleur financière. Et nous voudrions dire à tous les amoureux du patrimoine qui peuvent nous aider d'une manière extrêmement simple, pratique, et en obtenant une déduction fiscale pour les dons qu'ils nous feraient. C'est le système de ce qu'on appelle un don affecté à une association reconnue d'utilité publique depuis 1925 qui s'appelle la Sauvegarde de l'art français. La Sauvegarde de l'art français est une association qui est sous la tutelle des pouvoirs publics, destinée à aider ces monuments secondaires. Elle est au 22 rue de Douai, Paris 75009, donc dans le 9e arrondissement. La Sauvegarde de l'art français, 22 rue de Douai, dans le 9e arrondissement.
Nous mettrons les références sur le site de Canal Académie.
Voilà, et donc il suffit d'envoyer votre chèque au nom de la Sauvegarde de l'art français, en spécifiant dans un courrier que vous souhaitez qu'il soit affecté à la restauration de Notre-Dame de Vignemont à Loches. Et vous recevrez un reçu fiscal pour ce don, et nous-mêmes nous serons avisés de ce don, et nous pourrons ainsi poursuivre les travaux de restauration. Par avance, merci à tous ceux qui nous aideront.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie, hein, Maxence Écart et Jean Écart, pour cette merveilleuse évocation d'un lieu spirituel, un lieu de notre patrimoine que, comme vous l'avez rappelé, cher Maxence, que nous devons transmettre. Merci, chers auditeurs, et à très bientôt. Restez à l'écoute de Canal Académie.